RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. Il est des destins qui sont broyés par l'histoire. Au péril de leur vie, ils s'élèvent contre la barbarie, l'aveuglement, la guerre. Ils ont le tort d'avoir raison. De Jeanne d'Arc, on pourrait croire que tout est fini le 31 mai 1431, condamné au bûcher, mais il y a une suite. Il n'a pas fallu longtemps pour réhabiliter la fille guerrière qui sauva le royaume de France. Elle était innocente des accusations portées contre elle à l'évidence. Le bon sens de Michel Bernard est publié à la table ronde. Mathias Sindelar est un autre Mozart, le Mozart du football. Le génial avant-centre de Vienne est une gloire montante du football autrichien au début du XXe siècle. C'est le sport, mais le sport peut-il résister à la folie qui s'empare de l'Europe dans les années 1930 ? Le football peut-il rester indifférent au drame que les nazis préparent ? L'homme qui n'est jamais mort d'Olivier Margaux est publié chez Jean-Claude Lattès.
Au pied de la lettre, Christophe Héning.
Bonjour Michel Bernard.
Bonjour.
L'histoire est une source inépuisable pour l'écrivain que vous êtes. Comment fait-on pour passer de la documentation, des informations que vous rassemblez, à l'imagination, à la part de fiction ?
Ça se fait en même temps. D'abord, c'est pas de la documentation, c'est des livres d'histoire, des récits. Et puis, sans doute le défaut que j'ai, mais dès que je suis dans un livre d'histoire, qui est une grande passion pour moi, j'imagine, je vois les scènes, et j'extrapole, et je suis conduit à inventer aussi parfois. Et la documentation me remet sur les rails. Mais c'est plus fort que moi, c'est une sorte de foisonnement de l'imagination.
Sur des périodes très diverses, vous avez beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale,
oui.
Et puis là sur Jeanne d'Arc, on va en parler. Bonjour Olivier Margaux.
Bonjour.
Vous avez été rédacteur en chef de l'équipe pendant de nombreuses années. Le sport, il y a du suspense, il y a une certaine dramaturgie, de vrais personnages aussi. Tous les ingrédients d'un roman ?
Tous. Et dans le cas de Mathias Sindelar, c'est plus que ça. C'est une trajectoire quasiment parfaite pour un roman ou pour une biographie romancée. Alors c'est plutôt un roman parce que la mort de Mathias Sindelar demeure mystérieuse. Donc on ne peut pas affirmer avec une absolue certitude qu'il est mort comme cela, comme cela, comme cela. Donc on m'a conseillé de faire un roman plutôt qu'une biographie un peu plus stricte.
Voilà, puis ça laisse place aussi à ce qu'expliquait Michel Bernard, cette manière de revoir les choses pratiquement.
Ah, mais ça laisse la place à un imaginaire, évidemment. Ça laisse la place aux quelques archives qui existent sur Sindelar, parce que beaucoup ont disparu dans les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ce qui m'a énormément plu, à moi qui ai fait ma carrière dans le journalisme, c'est la qualité des quotidiens de l'époque. C'est une merveille.
Une mine d'or.
Une mine d'or. Et ces gens travaillaient, ces journalistes travaillaient avec une volonté, une acuité, une précision qui ont fait mon admiration.
Voilà, les historiens du temps, de l'instant peut-être aussi. Alors justement, il y a une place aussi pour les critiques littéraires, journalistes et chroniqueurs dans l'émission. Bonjour Stéphane Bataillon.
Bonjour.
Journaliste à La Croix Hebdo, poète, auteur de plusieurs recueils. Le dernier, c'est Contre la nuit, aux éditions Doucet. Mais vous nous partagerez un coup de cœur. Puis aussi, vous animez un blog.
Un blog sur le site de La Croix, de poésie, toutes les semaines, avec des poèmes à écouter.
Voilà, on donnera l'adresse. Toujours avec nous Camille Perrier. Bonjour Camille.
Bonjour,
qui m'aide à préparer l'émission, qui nous fera quelques lectures. Alors Michel Bernard, je vous avais reçu il y a 2 ans pour votre précédent roman Le Bon Cœur, qui était consacré à Jeanne d'Arc, que nous suivions dans sa mission, et ça s'achevait par la mort au bûcher. Vous pouviez en rester là, mais il fallait lui rendre justice. C'est un peu ça, le bon sens.
Oui, le bon sens, le bon cœur ne s'achevait pas exactement sur la mort de Jeanne. Il avait un petit prolongement. C'était, j'avais mis en scène le greffier qui s'appelait Guillaume Manchon, en train de rédiger le procès-verbal, parce que c'est grâce au procès-verbal du procès de 1431 qu'on connaît Jeanne d'Arc, qu'on est certain que ce n'est pas une légende inventée au XIXe siècle pour exalter le nationalisme français, mais que c'est bien une histoire vraie, et que c'est incroyable, cette histoire est incroyable, mais elle est absolument exacte. Et c'est grâce à ce greffier, Guillaume Manchon, qui a pris scrupuleusement en note chaque moment du procès, dans des minutes. Et un peu plus tard, il a rédigé le procès-verbal.
Il apparaît donc à la fin de ce premier roman historique consacré à Jeanne d'Arc. Et
c'est ça.
Prévoyez déjà de.
Non, pour moi c'était terminé. Je rendais hommage donc à ce greffier minutieux, grâce auquel on connaît Jeanne d'Arc, sur lequel on a construit sur lequel on travaillait tous les historiens. Et pour moi c'était fini. Et puis en présentant le livre en librairie, en en parlant. Petit à petit, oui, c'est fait jour qu'il fallait raconter les conditions de la réhabilitation. Parce qu'il y a deux sources à l'histoire de Jeanne. Il y a le procès lui-même. Et la deuxième source majeure, c'est le procès en réhabilitation, où on a fait témoigner tous les gens qui avaient connu Jeanne. Tous du général Dunois, le grand capitaine, jusqu'aux petites camarades de Don Rémy qu'on est allé chercher pour leur dire comment était la petite fille qui jouait avec eux. Et tous ces personnages parlent 20 ans après.
Alors on va y venir, ça c'est la réhabilitation. Rappelez-nous simplement quelques points historiques de Jeanne d'Arc, morte à 19 ans.
Elle
ça
19
se joue ans. En quelques années, hein, toute cette histoire.
Elle meurt en 1431 et son aventure a commencé en 1429. Donc en 18 mois, tout est joué. Et en 18 mois, tout est changé. Tout bascule.
Dans
on
cette
donnait plus
de
cher
ans,
de Charles VII, de ses chances de recouvrer son royaume. Ça paraissait, la cause française paraissait fichue. Le roi d'Angleterre paraissait bien tenir la France. Et puis elle arrive, elle délivre Orléans avec Dunois, avec les troupes
elle
françaises, elle entraîne tout le monde. Elle a ce coup de génie de voir qu'il faut que le roi s'assacre à Reims, alors que ses conseillers ne le lui recommandent pas. Elle l'entraîne, il est sacré à Reims, et effectivement là tout change. Comme si l'onction du sacre lui avait rendu sa légitimité politique. Et tout change. Ça prendra encore beaucoup de temps pour que les Anglais soient évincés. Les Anglais sont tenaces.
Oui, parce qu'il faut presque 20 ans et on arrive justement à la réhabilitation pour libérer Rouen, notamment.
Rouen libérée en 1449. Elle est suppliciée en 1431. 18 ans après, Rouen est libérée par le roi Charles VII avec l'armée française et Dunois qui est toujours là. Le compagnon de Jeanne et beaucoup de ses compagnons, que Saint-Trail aussi sont là, beaucoup des soldats qu'il avait connus entrent dans Rouen avec Charles VII et très vite on s'interroge sur parce que c'est là qu'elle a été brûlée, c'est là qu'il y a eu son procès qui a eu un retentissement dans tout le royaume en 1431 et donc on s'interroge, on ouvre les archives et Guillaume Manchon, dont on parlait tout à l'heure, il est toujours libraire.
Voilà, ce greffier,
il est toujours
libraire.
Là. Il est toujours là, c'est lui qui a fait le procès verbal. C'est sans doute le document le plus précieux qu'il détient, puisqu'il en est l'ouvrier.
Il le connaît par cœur.
Il le connaît par cœur, et on peut penser qu'il en est fier parce qu'on le sait, parce qu'il va être un des témoins au procès en réhabilitation. On sait qu'il a résisté à Cochon et aux Anglais qui faisaient pression sur les greffiers pour qu'on tire les réponses de Jeanne du côté de l'hérésie. Or, on sait, parce qu'il y a des témoignages qui l'ont indiqué, qu'il a résisté. Il a dit non, moi je note que ce qu'elle dit, rien d'autre. Il a notamment refusé sa signature, c'est un moment très important, après la mort de Jeanne, quelques jours après, l'évêque Cochon avait réuni les juges, les greffiers, et voulait que Manchon entérine le fait que Jeanne s'était rétractée. Et Manchon dit, mais j'ai pas assisté à une rétractation, j'ai jamais entendu ça. Il a refusé
ce qu'elle n'a pas dit, je ne l'écris pas.
Exactement.
C'est ce que vous expliquez très bien.
Et c'est ce qu'il a dit. Il était gonflé.
Il a résisté. Il a résisté. Le footballeur dont on parlera tout à l'heure.
Pas parce qu'il était pour Jeanne. Il était même, on peut penser, obéissant à Cochon. Mais c'était son métier. C'était l'honneur de son métier. C'était un greffier scrupuleux.
Mmh. Avant d'en venir encore à cette réhabilitation, qu'est-ce qu'on reproche à Jeanne? On la traite de sorcière, de tout ce qu'on veut, d'hérétique. C'est surtout politique.
Oui, c'est politique. Les Anglais veulent la tuer parce que leurs soldats sont persuadés qu'elle est une sorcière et qu'elle leur a jeté un sort. Et tant qu'elle sera là, ils seront battus. C'est effectivement le cas. Lorsqu'elle est là, ils sont battus. Et donc, pour les chefs anglais, pas d'histoire. Il faut brûler cette femme. Les soldats seront rassurés et on pourra de nouveau battre les Français. Pour Cochon, il est entièrement dévoué à la cause anglaise. Il est persuadé que le bon roi de France, ce sera le roi d'Angleterre. C'est le roi d'Angleterre et que Charles VII n'est qu'un imposteur et que son temps est fini. Ce qu'il ne supporte pas, c'est que Jeanne ne se soumet pas. Elle ne reconnaît pas l'autorité de l'archevêque. Elle ne se soumet pas à l'Église. Et ça, c'est insupportable. Et c'est sur ce motif-là qu'elle est reconnue comme hérétique.
D'autant plus que sur ce procès, tout le monde vient, tout le monde veut en être. Même, vous les mettez bien en
toute
scène aussi, c'est ça, les universitaires de Paris qui débarquent.
Il y a quasiment un train. on quitte la Sorbonne, les professeurs se disputent l'avantage de participer au procès de cette femme qui est très célèbre. Et à qui on impute ce retournement de situation qui met en péril la construction franco-anglaise, hein, cette double couronne dont Cochon est un fervent soutien et dont la Sorbonne est aussi un soutien. Toute la Sorbonne a pris parti pour le roi d'Angleterre.
Et Jeanne résiste toujours. Vous écrivez, la parole de Jeanne s'enlaçait comme une liane vigoureuse, verdoyante au questionnement sec et abstrait des prêtres, professeurs et maîtres qui la jugeaient et montaient plus haut.
Toute mon histoire repose là-dessus. C'est que mon hypothèse, c'est que lorsque les conseillers du roi ont ouvert les archives du procès, peu de temps après la reprise de Rouen, ils ont été saisis par cette parole comme Michelet l'a été. C'est-à-dire que avant Michelet, personne n'avait ouvert les archives du procès. Personne. Michelet était un grand historien. Il est nommé directeur des archives de France. Il faut l'imaginer. L'une des premières choses que ce grand historien a ouvert quand il était directeur des archives de France, eh ben c'est les archives du procès de Jeanne d'Arc qui étaient déposées là. Et là, Michelet tombe amoureux de Jeanne d'Arc. Mais pourquoi? Parce que la parole de cette jeune fille suppliciée lui a sauté au visage, littéralement. Et il était frappé par l'intelligence, l'humour, la force de caractère, le courage inouï de cette jeune fille. Et il a fait ce chef-d'œuvre qui est la Jeanne d'Arc de Michelet, qui est un livre sublime, un des grands textes du XIXe siècle.
Michelet, à qui vous devez d'ailleurs le titre, c'est bien ça?
Eh oui, qui dit que Jeanne a agi par bon cœur et par bon sens.
Une force singulière.
Une force singulière, de bon cœur et de bon sens.
Oui. Parce que là aussi, alors pour... la réhabilitation nous paraît évidente, mais en même temps, il faut à cette époque, et vous le racontez, convaincre le roi, Charles VII, de ressortir cette histoire.
Eh oui, le roi en politique, lui, son objectif, il a quasiment chassé les Anglais du royaume, il reste encore l'Aquitaine à reprendre, mais c'est bien parti, il est en train de réussir son pari. Son objectif, dès qu'il reprend une ville, c'est de réconcilier. C'est de ramener à lui ceux qui s'étaient écartés de lui. Hein? C'est donc de pardonner, et il le dit, d'oublier. Pour refaire la France, il faut oublier.
Il ne
faut pas retourner le couteau dans la plaie. Or, rouvrir le procès de Jeanne, ouvrir un procès en réhabilitation, réviser le procès de Jeanne, eh bien, c'est mettre le fer au cœur de la plaie. Parce que c'est la Sorbonne qui a condamné Jeanne. C'est aussi l'Église. L'archevêque de Rouen, qui accueille Charles VII dans sa cathédrale au mois de novembre 1449, quelques heures après que Charles VII ait pénétré dans la ville, il était juge au procès de Jeanne. Le vice-inquisiteur, qui est en poste à Rouen à ce moment-là, et qui est confirmé par Charles VII, il était vice-inquisiteur au procès de Jeanne. C'est le même. Beaucoup des professeurs de la Sorbonne en activité et qui ont, en 1449, ils ont viré leur cutie. Hein. Ils sont devenus des soutiens de Charles VII. Et beaucoup d'entre eux ont été les juges de Jeanne. Beaucoup sont compromis. Les Bourguignons, qui sont devenus les alliés du roi de France, et c'est ce renversement d'alliance qui rend possible l'évacuation des Anglais. Les Bourguignons ont vendu Jeanne. Donc le roi, lui, il veut pardonner, oublier, on reconstruit le royaume, on consolide. Le royaume est totalement bouleversé, c'est une longue guerre civile qui s'achève. Il faut reconstruire. La priorité est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les hommes, comme Michelet, les hommes, les conseillers du roi qui ont ouvert les archives, ils sont bouleversés. Ils sont bouleversés par
l'injustice, témoignage, par
l'injustice et puis par la grandeur.
Le procès verbal du procès.
Voilà. Et c'est une affaire d'individus, de gens bouleversés. Il faut absolument.
Vous montrez, tous les ecclésiastiques qui sont touchés, qui se disent non, il faut faire quelque chose. Oui. On ne peut pas rester avec cette tâche.
Ceux qui ont jugé Jeanne, ce sont des gens qui ont entre 50 et 70 ans. Hein. Un certain nombre d'entre eux sont morts. Les conseillers du roi qui arrivent sont des gens qui ont 30, 40 ans. Quand Jeanne a été condamnée, ils étaient des adolescents, des jeunes gens.
Ils jouaient à la guerre la figure de Jeanne d'Arc.
Quand ils
étaient gamins.
En tout cas, ils n'étaient pas, compromis. Mmh. Et donc, ils sont disponibles pour recevoir cette parole qui leur revient en pleine figure, comme elle est venue à Michelet. Et comme nous, quand on ouvre le procès de Jeanne, la parole de Jeanne est une fraîcheur, une force absolument étonnante. On ne peut pas être insensible à cette... c'est une des grandes paroles de l'histoire. Et elle est toujours active.
Mais ce qui est surprenant, c'est qu'elle soit arrivée quasiment intacte. Alors, il y a le personnage de Thomas de Courcelles qui intervient, c'est pas bien, il écrit, il va travailler un petit peu sur la rédaction aussi. Est-ce que c'est... Mais malgré tout, cette parole, elle reste, comme vous dites, d'une grande fraîcheur, d'une grande sincérité.
Grâce à l'honnêteté de ce greffier, grâce au métier scrupuleux de ce greffier, qui a tout noté tel qu'elle le disait.
Ça aussi c'est frappant dans votre livre avec ce Guillaume Manchon dont vous parlez, c'est que vous jouez avec tous ces personnages qui ont existé. On est dans un roman historique, mais vous reprenez véritablement ces personnages.
Tous les personnages ont existé. Ouais, une fantaisie avec le chat,
chat qui ouvre le livre.
Mais il y avait probablement un chat dans la librairie parce qu'il fallait lutter contre les souris. Les amateurs de livres aiment les chats. Le greffier.
Vous pouviez vous permettre d'avoir un greffier.
On l'appelle un greffier. Il y a une sorte d'affinité naturelle. Donc c'est le seul personnage inventé, c'est le chat du greffier. Mais tous les autres ont existé, y compris bien entendu Thomas de Courcelles, qui est vraiment emblématique de l'intellectuel de cette époque. Thomas de Courcelles, on l'a oublié aujourd'hui, mais c'était un grand intellectuel de ce temps, et conseiller du roi, et un conseiller très proche du roi.
Mais il était aussi au procès, donc...
Et il était juge de Jeanne. Ouais. C'était un jeune juge, il avait 30 ans à ce moment-là. Mais en 1436, au moment du renversement d'alliance entre les Français et les Bourguignons, il prend le train en marche. Et il se rallie à Charles VII, assez jeune, à 35 ans. Le problème, c'est qu'il a cette tâche. Il a été juge de Jeanne. Il s'efforce de le faire oublier. Et c'est lui qui revient, alors qu'il est titulaire d'une chaire de théologie à la Sorbonne, qu'il a obtenue grâce à Cochon, avec l'aval du pape. Il revient en 1435, 4 ans après la mort de Jeanne, il revient, et c'est avec lui que Manchon rédige le procès verbal. Pourquoi est-ce qu'il revient? C'est mystérieux. Et c'est là que le livre... Et mon livre, toutes les versions sont vraies, mais c'est un roman. Et je me demande pourquoi est-ce que Courcelles revient. Alors, le roman donne une raison.
On va laisser ça. Dans votre livre, il y a donc ce procès, cette affaire publique qui vous nous entraînez, c'est passionnant. Et puis, il y a aussi une histoire d'amour fou entre Charles VII et Agnès Sorel.
Oui. Ça aussi, c'est l'histoire, c'est vrai.
Oui. Et l'artiste.
Et alors, ce qui est extraordinaire.
Jean Fouquet.
Et Jean Fouquet. Alors, on connaît Agnès Sorel. On comprend
favorite,
la passion
du roi, Charles VII.
Du roi, en titre d'ailleurs. C'est la première favorite en titre de l'histoire, ce qui doit être bien douloureux pour la reine. Mais elle était introduite à la cour, elle était présentée
personnage
par le roi,
public,
comme ça, un personnage public. Et grâce à Jean Fouquet, on comprend la passion du roi. Parce qu'il l'a représentée, la Vierge qui est à Anvers, la célèbre Vierge d'Anvers avec le sein découvert, c'est Agnès Sorel qui a posé pour elle. Et on comprend La Passion du roi, elle est d'une beauté sublime. Le roi est fou d'elle. Et ce qui, c'était un des éléments qui m'a conduit à écrire le roman, c'est que les historiens s'interrogent. Mais c'est le premier acte qui va conduire au procès en révision à la révision du procès de Jeanne, c'est une lettre de mission signée par le roi Charles VII à un de ses conseillers, Guillaume Bouillet, qui est datée du 15 février 1450, signée à Rouen, qui demande à ce conseiller d'enquêter sur les conditions du procès. 15 février, 6 jours avant, le 9 février, Agnès Sorel est morte. Elle est morte tout près de Rouen, à Jumièges. Donc l'homme qui signe contre son intérêt politique, qui est
qui veut faire la vérité
et le pardon. Et l'homme qui signe pour avoir la vérité contre son intérêt politique, c'est un homme qui est dans une profonde douleur. Il vient de perdre la femme qu'il aimait, dans des conditions terribles d'ailleurs. Elle meurt à 28 ans, 29 ans, on ne sait pas exactement son âge, et elle meurt en accouchant d'un enfant mort-né, enfant de Charles VII. C'est cet homme dans la douleur donc, qui va signer la lettre qui va ouvrir le processus, le long processus de réhabilitation, hein, qui va conduire ensuite à la béatification, bien plus tard, et à la sanctification. C'est cet homme dans la douleur. Et donc j'ai voulu montrer, là aussi, que les conseils se heurtaient à la résistance du roi, résistance politique, et ils saisissent ce créneau, cette opportunité, d'un homme qui est tout d'un coup en deuil, fragile, et ils le mettent face au drame qu'a été la mort de Jeanne. Mmh. Il lui extorque en quelque sorte sa signature.
Avec ce peintre Jean Fouquet, qui est encore un personnage réel que vous mettez en scène, donc sans doute un peu plus parce qu'on a moins de renseignements sur lui.
On sait quasiment rien.
Voilà. Et en même temps, quand on voit les tableaux, les portraits qu'il fait,
c'est un génie.
Il y a une sorte de modernité déjà dans son traitement, et aussi un regard, vous le décrivez, très très soucieux de ne pas froisser le roi, mais en même temps très audacieux.
Ah oui, parce que on connaît Charles VII, son caractère, on a ses actes, mais à l'époque, les mémorialistes, les chroniqueurs, ne parlent pas du caractère du roi ou du caractère de l'autre. Ils parlent des actes, mais il n'y a pas de portrait psychologique. Mais on a un portrait psychologique par Fouquet. Le portrait de Charles VII est fascinant de réalisme. Et ce qui est surprenant, c'est que le roi est laid. Il est laid et il a l'air fourbe. Et je me demandais, mais c'est incroyable.
Comment oser?
Alors, on sait après, les portraits de Napoléon, il est embelli par les portraitistes. Aucun n'aurait osé le
Louis
montrer.
Louis XIV, n'en parlons pas.
Voilà, Louis XIV, pareil. Louis XVIII, les portraitistes essaient de l'arranger, pourtant il était horrible. Le premier portrait d'un roi de France qu'on a, il n'est pas du tout embelli, c'est un portrait absolument réaliste. Et je me demandais, mais comment est-ce que le roi a reçu ce portrait? Donc j'ai essayé d'imaginer cette scène de ce peintre, avec ce peintre qui est un génie, hein, c'est un très grand peintre
très
français.
Peintre, ouais.
C'est le premier portraitiste de l'époque. Il invente quasiment le portrait en France. Les Italiens avaient commencé. D'ailleurs, on pense que Fouquet était allé se former à Rome.
Italienne.
Plus qu'une influence, une formation qu'il aurait reçue à Rome. Mais c'est bien un peintre français qui exerçait à Tours. C'est la seule chose qu'on connaît de lui. Il était tourangeau.
Il trouve sa place dans votre roman, Le Bon Sens. Olivier Margot, vous avez lu Le Bon Sens depuis tout à l'heure. Vous écoutez, je vois, avec attention Michel Bernard. Qu'est-ce que vous avez ressenti ?
Je l'ai lu avec un grand bonheur d'abord. Grand bonheur d'écriture, mais surtout je dois rendre hommage à l'idée. L'idée est formidable. Partir du bûcher de Jeanne d'Arc et 20 ans après, 25 ans après, retrouver ceux qui ont participé à cette condamnation. Thomas de Courcelle est pour le moins un personnage ambigu, d'une ambition folle, et à mon avis, il essaye de revenir dans cette histoire pour essayer de dissimuler ce qu'il a fait.
Donc, pour réécrire l'histoire.
Réécrire l'histoire au sens strict. Mmh. Ouais. Mais il n'y parvient pas. mais j'ai trouvé ça mais magnifique. C'est une idée magnifique et c'est un texte magnifique.
Avec une très belle écriture de Michel Bernard, comme d'habitude, aussi une grande présence. Enfin, on suit vos personnages. Là aussi, vous avez travaillé cette approche justement des personnages de l'époque.
Ben, je trouve que Thomas de Courcelles, justement, personnage ambigu, est un personnage très moderne. Ce conseiller politique est un personnage très moderne.
Toute ressemblance avec des politiques contemporaines serait fortuite. Ouais,
voilà, il est très moderne. Au fond, cette époque est très moderne. Cette époque de Charles VII est très moderne. Quand j'ai écrit le livre, il faut essayer de me représenter ça. J'ai pensé évidemment constamment à la période de l'occupation et de la libération.
Absolument. Hein.
Et nous aussi, on a connu de grands procès après la libération. Mais ces procès sont arrivés aussi 30 ans après. C'est-à-dire que à chaud, on hésite à rouvrir. Hein. La France a connu une longue période où la priorité était la reconstruction. Hein. Et les années 40, 50, 60. Et puis c'est dans les années 70 qu'on commence à sortir les dossiers, des choses ambiguës, des choses gênantes pour des gens qui sont des gens de pouvoir. Mmh. Hein. Donc je pensais un peu à ça et on trouve un peu des mécanismes comparables à cette époque et avec un enjeu sur l'écrit.
La preuve
par l'écrit. J'ai trouvé ça absolument passionnant et ça m'a guidé constamment en écrivant cette histoire.
On va écouter un extrait, Camille, justement, quand un des personnages se jette dans la lecture du procès.
Le lendemain, Bouillet était dans la librairie et commençait de lire le procès-verbal. De temps à autre, il demandait un éclaircissement au notaire, mais si celui-ci tentait de développer son propos, Bouillet l'interrompait et revenait au texte. Manchon le regardait. Il s'efforçait d'interpréter sur les traits du lecteur des signes à peine perceptibles, essayait de deviner les émotions du calme et attentif conseiller. Une inflexion des sourcils, un battement des cils, l'esquisse d'un sourire, d'une grimace, un durcissement des traits. Manchon connaissait presque par cœur le texte. Les expressions de son vis-à-vis le renseignaient sur les séances, les répliques qu'il découvrait. Les aides étaient parties. Il ne restait plus sous les voûtes éventées de la librairie que Manchon et le conseiller. Ils avaient rabattu leurs capuchons sur leurs têtes rasées pour se protéger du froid. La lampe allongeait leurs ombres sur les murs. Bouillet referma la couverture du document sur la dernière page. Le cuir cartonné claqua sur le papier. En se redressant, il laissa la main dessus, à plat. Il en parlerait au roi dès que possible.
Jeanne, les flammes l'ont suivi quand elle chevauchait dans la nuit. Pas de lune pour l'éclairer, ni personne pour la guider. Je suis si lasse de la guerre, j'ai tant envie des travaux de naguère, d'une longue robe de mariée pour habiller mon appétit grossier. La la la.
Le début de la chanson Jeanne d'Arc, écrite par Leonard Cohen et interprétée par Graham Wright, qui est décédé il y a quelques semaines. Au pied de la lettre, je reçois aujourd'hui Michel Bernard pour Le Bon Sens, aux éditions de La Table Ronde, et Olivier Margot pour L'Homme qui n'est jamais mort, paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Olivier Margot, alors Mathias Sindelar est un génie du ballon rond, mais il y a chez lui, plus que la gloire footballistique, il y a une concentrée d'époque, il y a un symbole, et nous allons voir pourquoi. Mais d'abord, Olivier Margot, racontez-nous cette carrière sportive d'un enfant, on peut dire, hein, de l'open prolétariat, vraiment des milieux les plus pauvres de cette Europe du début du XXe siècle. Un enfant devenu dieu du stade.
Oui, c'est un peu un miracle au fond, parce que c'est vraiment un enfant du lumpen prolétariat. Il est né en Moravie, il arrive à Vienne à 2 ans, dans le pire des quartiers, dans le plus pauvre des quartiers, le quartier des briqueteries. Alors le quartier des briqueteries, ce sont des usines où on va travailler son père, et le travail était un travail tout à fait léger, puisqu'il fallait travailler 7 jours sur 7 et 15 heures par jour. Et les ouvriers étaient payés en briques. C'est-à-dire que voilà, ils étaient pas payés en argent, on leur donnait des briques et ils devaient vendre, ils devaient bâtir des murs à ceux qui voulaient, ils devaient les échanger contre des salades, contre des pommes de terre. Enfin bon, ce très jeune garçon vit dans cette ambiance-là. Et c'est un quartier, et ça c'est important, c'est un quartier qui est dominé par les Tchécoslovaques, qui sont 300 000 à Vienne, et qui sont tous sociodémocrates. Mais là, on ne parle pas de la social-démocratie de François Hollande. Là, on parle de la gauche de la gauche. Et donc, évidemment, tout cela va imprégner ce jeune homme de quelque chose et de quelque chose d'autre. Alors, il va commencer à jouer au football, mais il est très maigre, qu'il est très élancé, qu'on a l'impression qu'il a des problèmes pulmonaires, il a des cheveux blonds, filasses, enfin bon, il a rien de d'exceptionnel.
C'est pas un athlète. Quoi,
c'est
pas,
pas
en
du
apparence.
Tout un athlète. C'est pas du tout un
Ce
athlète.
Ce qui lui vaut un surnom extraordinaire.
Lequel?
Papier.
L'homme de papier.
L'homme de papier, parce que il n'est pas plus épais qu'une feuille de papier à cigarette.
L'homme de papier, parce qu'il parvenait à passer entre les défenseurs là où il y avait juste la place
d'une feuille de papier.
D'une feuille de papier. Mais il en aura beaucoup des soins, dont un encore plus considérable pour une ville, pour la capitale de la musique, qu'est Vienne, c'est le Mozart du football. Et je vais tout de suite un petit peu à la fin, mais quand même, il se passe quelque chose autour de cet homme, et il se passe quelques beaux hasards, disons. On le surnomme le Mozart du football. Il va mourir à quelques mètres de la loge maçonnique que fréquentait Mozart. Il meurt au même âge que Mozart, et il est enterré à 30 mètres du cénotaphe de Mozart. Et là, on est dans l'histoire de Vienne, on est dans une histoire romantique et sublime, mais qui est vraie.
Alors revenons un petit peu donc sur son passé. Il perd aussi son père, très jeune, qui meurt à la guerre.
Son père meurt sur le front italien en 1917. Donc les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Et puis, un jour, la réserve de l'équipe du Hertha a besoin d'adversaires. Et donc, on recrute les mômes qui jouent au football sur les terrains vagues. Et il en fait partie. Puis là, il commence à comprendre, il commence à prendre conscience que c'est peut-être la chance de sa vie, et c'est peut-être son plus grand match. C'est-à-dire que contre une équipe expérimentée, il marque 5 buts, il a 15 ans.
Extraordinaire.
Tout commence.
Tout commence, alors après, il passe d'un club à un autre, il a un style qui s'affirme, mais en même temps il dérange. À un moment, vous écrivez, c'est un saltimbanque au jeu éthéré.
Oui, parce que on lui reproche d'emblée cette invention ou cette idée qui va le guider toute sa vie, qui est d'abord un jeu certes très spectaculaire, mais fondé sur le minimalisme. Et le minimalisme va lui valoir quelques entretiens avec le grand architecte Joseph Hoffmann. Aussi, il est porté par une idée qui est, si on arrive, enfin, lui, il veut que son équipe de football, qui va devenir le Wunder Team, l'équipe des merveilles, son équipe de football soit un exemple pour la classe ouvrière. Et il est porté par ça, continuellement. Il va le dire, il va le prouver. Et ça, c'est tout de même... là, on entre dans le miracle d'un enfant de lumpen prolétariat qui va devenir, enfin, qui va être considéré par les grands artistes viennois, et Dieu sait s'il y en a, dans les années 20 et 30, comme leur égal. C'est-à-dire que pour moi, ça, c'est aussi fort que de devenir le meilleur joueur du monde.
Oui, parce que c'est ce que vous montrez bien, c'est que on imagine que les footballeurs sont dans leur coin, sont au stade et tout ça, et puis les intellos ailleurs, dans les cafés viennois. Mais non, il fait partie, enfin, il est au contact des intellectuels. Il fait partie de ce groupe de réflexion dans les cafés.
Beaucoup de grands intellectuels viennois vont le suivre. Mais littéralement le suivre, c'est-à-dire que Attila Hörberger, par exemple, qui est le grand acteur du Burgtheater, très vite dépose chaque week-end une lettre en disant je ne joue pas parce que Mathias joue à Venise, il joue à Londres, il joue à Prague, donc je le suis. Et donc bon, il y a lui, il y a Thorberg, le poète, qui va écrire sur lui un long poème magnifique. Enfin, ils sont nombreux, mais le plus surprenant, c'est Josef Hoffmann. C'est-à-dire que lui, c'est un architecte qui lui aussi va chercher le minimalisme novateur, et donc il le convoque presque dans les grands cafés viennois, et ils vont discuter de forme, de modernité, et du minimalisme. Et quand même, on a du mal à penser que ce jeune homme puisse être l'égal, en tout cas parler d'égal à égal avec un intellectuel
avec tous ces milieux
comme Hoffmann, quoi.
Alors vous montrez aussi que s'il est suivi par les intellectuels, par le public, c'est pas toujours facile non plus avec les responsables des équipes de son club ou des équipes nationales. Il n'est pas toujours sélectionné pour aller jouer. On sent que malgré tout, sa figure gêne un peu par moment, non ?
Il gêne. Il gêne et il gênera toute sa vie. C'est-à-dire que il gêne parce qu'il est tellement au-dessus des autres qu'il prend le pouvoir involontairement. Ce n'est pas un homme de pouvoir. Mais il a dans la tête une géographie des matchs. C'est comme un arpenteur.
C'est lui qui mène le jeu.
C'est lui qui mène le jeu. Et quoi que les entraîneurs lui disent, c'est lui qui mène le jeu. Et ce jeu, il l'a conçu, il l'a. Et l'enfant du lumpen prolétariat devient aussi un très bon joueur d'échecs, qui bat à peu près tout le monde. Donc là aussi, il y a un autre petit miracle quand même.
Et puis ce que vous montrez aussi, c'est que cette période d'entre-deux-guerres, c'est aussi une période très difficile pour l'Europe, et que le foot commence à être un mode d'expression aussi des conflits à venir.
Alors effectivement, écrire sur Sindelar, c'est le meilleur prétexte
pour parler
des années 30, de la Mitteleuropa, de la tragédie de ce qu'on a appelé le Yiddishland. Et c'est extraordinaire. Mais dès qu'on travaille un peu... Et là, je pense que Michel Bernard le sait, évidemment, dès qu'on travaille, il y a des choses qui ont totalement disparu des livres d'histoire autrichiens. La grande aventure de Vienne-la-Rouge, parce que la social-démocratie s'empare de la mairie de Vienne, ça va durer 15 ans, ils vont construire des logements, 63 000 logements, un immeuble, le Karl Marx Hof, qui fait 1 km de long pour 62 000 personnes. Enfin bon, c'est extraordinaire. C'est un moment de. C'est le. Je pense que c'est le plus grand moment de la classe ouvrière. Mmh. Et Matthias Sindelar vit cela. Vit cela parce que les 300 000 Tchécoslovaques dont je parlais au début, ils ont créé un journal, bien sûr, mais des cercles, des cercles culturels multiples. Et donc, ils participent de cette vie. Et donc, il y a ça. Et puis, on découvre brusquement qu'il y a aussi eu une guerre civile en Autriche.
Vous racontez.
En février 34. Certes, elle est très brève. 3 jours, 1000 morts. Et on va passer de l'austro-marxisme à l'austro-fascisme très très vite.
Et puis après, l'Anschluss, qui est aussi là un grand tournant. Vous montrez bien que Sindelar, il est à la fois footballeur, proche des intellectuels, et aussi profondément attaché à son pays, l'Autriche.
Oui, la plupart des intellectuels, enfin tous les intellectuels ou presque, vont s'expatrier, vont quitter Vienne, certains dès la prise de pouvoir d'Hitler, puis ensuite évidemment avec l'Anschluss, et Sindelar refusera toujours, c'est-à-dire que Manchester United, notamment, lui fait un pont d'or. Et donc, il aurait pu vivre, survivre, devenir encore quelqu'un d'autre. Et il dit, non, Vienne, c'est ma ville. Et je ne la quitterai jamais. Et c'est quand même une phrase qui, pour moi, laisse entendre qu'il sait exactement où il va. Parce que là, quand même, la Wehrmacht est là, la Gestapo est là. Là, quand il prononce cette phrase...
On sait que ça peut mal tourner.
Oui.
Et d'ailleurs, hein, vous dites bien qu'à un moment, il avait glissé dans son portefeuille quelques lignes de Rilke. Et le cœur est si là maintenant, et la nostalgie si grande, il n'y a plus de montagne, à peine un arbre, rien qui ose se dresser.
Absolument, c'est... C'est une phrase magnifique, sublime. C'est un de ses amis qui l'avait emmené au théâtre voir cette pièce de Heike et il l'a gardée toujours.
Michel Bernard, vous avez lu oui. L'homme qui n'est jamais mort.
Oui, oui. Alors je connais rien au football et ça m'a passionné. J'ignorais totalement ce joueur merveilleux. Et vous lui rendez bien, enfin, on sent bien passer la grâce hein, du footballeur de cet homme. Et puis, j'ai été pris par les enjeux footballistiques. Le match Autriche-Angleterre que vous racontez, là, il y a un suspense incroyable. Voilà, il y a une chose qui m'a attristé, c'est que il y a deux rencontres, je crois, avec la France, et chaque fois la France est battue hein, par l'équipe de Sindelar.
Oui, et battue sévèrement.
On a des scores extraordinaires à chaque fois. Hein.
Et encore, l'équipe de Vienne, dont il est capitaine aussi, vient jouer contre l'équipe de Paris. Et Vienne gagne 6-1. Donc là, on n'est même plus dans les équipes nationales. Ouais.
Le 1, c'est la commisération.
Mais quand vous parlez des scores extraordinaires, c'est sûr que Matthias Sindelar avait quelques difficultés avec l'Allemagne. Et quand même, la première fois où il joue à Berlin, il gagne 6-0. Évidemment,
ça fait très plaisir.
Évidemment, c'est fâcheux. Oui. Et puis, les Allemands plaident pour un match retour. Bon, ils gagnent 5-0. Ensuite, ils vont jouer à Berlin, ils gagnent 4-1. Enfin, tout ça, il commence à cocher toutes les cases, le garçon, quand même. Hein, parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent s'oublier.
Et puis, il y a le 3 avril 1938... un match important qui n'est pas le match Autriche-Allemagne. Allez, présentez-nous rapidement.
Le match de l'Anschluss.
Oui.
Ah, le match de l'Anschluss, c'est quelque chose d'ahurissant, en fait. D'abord, c'est un match totalement schizophrénique. Hein. C'est-à-dire que les Autrichiens ont accueilli les 200 000 soldats de la Wehrmacht avec un bonheur indescriptible. Et puis, il va y avoir un référendum a posteriori de cet envahissement, un référendum d'ailleurs qui sera favorable à cet envahissement à 95,75%, c'est pas mal.
Donc il y a un match entre les joueurs.
Mais une semaine avant, la propagande nazie a une idée géniale qui est d'organiser le match de la réconciliation entre l'Autriche qui n'existe plus, donc ça c'est un peu fâcheux, donc ils vont l'appeler l'Ostmark, les marches de l'Est, qui veut absolument rien dire, enfin bon, contre l'équipe de l'Eitreich, du Reich ancestral. Et c'est au Prater de Vienne. Le stade du Prater, c'est 60 000 places, c'est un stade magnifique, et il faut imaginer, voilà, le stade du Prater avec les drapeaux nazis qui flottent au vent, les SS partout, une tribune qui est envahie par l'aéropage nazi. Et donc il faut jouer. Et le Wunderteam arrive au vestiaire.
Et là, il se passe quelque chose. On va juste écouter justement Camille qui va lire cet extrait.
On leur a déposé deux sacs de maillots juste derrière la porte. Sindelar les fixe. Il est blême. Ce sont des maillots inconnus aux couleurs incertaines. Que faire ? Le capitaine choisit sa vérité. Il ouvre la porte du vestiaire. Tous perçoivent au loin le cliquetis des armes. Il exige la venue d'un responsable. Voici un officiel et un capitaine. Mathias Sindelar les accueille par quelques mots déconcertants dans des circonstances aussi tendues. Ce ne sont pas nos maillots, on ne joue pas. C'est la stupeur. Le silence est colossal. Sindelar est immobile. Sesta scrute le visage de son capitaine. Il y lit une détermination sans faille, une colère froide, une intégrité qui lui ressemble. Mais tout est devenu si précaire que Sesta explose. « Mathias, tu veux dicter ta loi à une armée, c'est ça? Tu te dis que c'est un beau jour pour mourir? Au nom de ton idée de l'honneur, tu vas tous nous faire crever !» Sindelar réplique d'une voix étrangement apaisée. « Tu es polonais d'origine. » Je suis né en Moravie et l'Autriche est notre patrie. Ils nous ont tout pris, jusqu'au nom de notre pays, et ils veulent en plus notre maillot. Alors il se retourne vers les deux Allemands tétanisés et répète sa sentence. On ne joue pas.
Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne, c'est que sans réfléchir j'ai préféré partir et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne.
Vienne, oui, la chanson de Barbara en 1972 qui est reprise par William Scheller au pied de la lettre aujourd'hui avec Michel Bernard pour Le Bon Sens, paru aux éditions de La Table Ronde et Olivier Margot pour L'Homme qui n'est jamais mort, paru aux éditions Jean-Claude Lattès.
Au pied de la lettre, RCF.
Olivier Margot, on l'a vu, ce match de l'Anschluss, évidemment, c'est l'Allemagne qui doit gagner, l'Allemagne du Reich, l'Allemagne nazie qui veut gagner, qui doit gagner, et ça se passe pas tout à fait comme ça, rapidement.
Donc Sindelar et ses Autrichiens gagnent le bras de fer, reçoivent le maillot qu'ils désiraient, ils l'enfilent, et au moment où ils l'enfilent, naturellement, on leur dit « Vous n'avez pas le droit de marquer ». Ils sortent, le public est en délire, c'est pour ça que je parlais de schizophrénie tout à l'heure. Le public est en délire et ils vont faire une première mi-temps royale comme avant. Ils jouent merveilleusement, ils trimballent l'équipe d'Allemagne. Mais chaque fois qu'ils s'approchent du but, ils font presque demi-tour afin que chacun comprenne qu'ils n'ont pas,
pas le droit d'aller plus loin.
Et puis en deuxième mi-temps, parce que Sindelar est Sindelar.
Le naturel revient.
Il marque. Le naturel revient, il marque. Et il existe un film très bref où on le voit marquer et où il lève les bras et il commence une course vers une tribune. Et cette tribune, c'est celle de l'aéropage nazi. Et là, il est accompagné de son ami Karl Sesta et Sindelar lève les bras, lève les poings. Et il n'y aura qu'un seul quotidien viennois le lendemain qui aura le courage d'écrire ce qui s'est passé réellement et en employant une petite phrase merveilleuse, ils ont fait une petite danse. Je trouve ça magnifique.
De la danse, on va passer à la poésie. Stéphane Bataillon, vous écoutez depuis tout à l'heure le début de cette émission, où il y a beaucoup d'émotions aussi, hein, toute de cette histoire. Dans la poésie aussi de Cécile Coulon, Noir Volcan, on va trouver sans doute aussi cette sensibilité à l'écriture.
Tout à fait, tout à fait. On connaît plus Cécile Coulon comme romancière. Elle est très jeune, elle a 29 ans. Elle est déjà à son 7e roman. L'année dernière, elle a rentré, là, Une bête au paradis, qui est sortie, qui a eu beaucoup de succès. Mais elle est aussi poète. Elle a reçu le prestigieux prix Apollinaire pour son premier recueil, Les Ronces. Et elle teste ses poèmes sur Facebook. Elle entretient une conversation avec sa communauté de lecteurs à la fois chaleureuse et très intense, quotidienne. Ce qui donne des poèmes. Et aujourd'hui, son second recueil, Noir Volcan, paru au Castor Astral. Et je vous en lis un de ses textes. Je gronde. Tandis que les longs sapins se penchent sur les collines, comme de maigres vieillards sur des enfants joyeux, tandis que les devantures des magasins me proposent une version améliorée de moi-même, pour un prix tout à fait raisonnable, tandis que certains rentrent chez eux, les yeux longs, et traversés par de rares éclairs d'éternité, je gronde. Tandis que tu siffles tes souvenirs comme des chiens fidèles, les rassemblant dans ta mémoire pour battre une dernière campagne, tandis que tu fais la liste des moyens à ta portée pour me trouer les ailes le plus rapidement possible et ainsi laisser une trace de ta déception, de ta profonde et brûlante déception. Tandis que tu bats les cartes pour une ultime partie, je gronde. Tandis qu'on me répète qu'il faudrait, qu'il faudrait, qu'il faudrait. Tandis qu'on me répète que je devrais, je devrais, je devrais. Tandis qu'il parle et épuise ce langage si beau en de si vains avertissements, je gronde. Tandis que j'apprends à vivre avec un nouveau soleil dans la poitrine, pendant que d'autres préparent des flèches, des stratégies et des promesses de dévastation. Tandis que tu poses sur moi tes étoiles, si nombreuses pour une seule galaxie, je gronde. Je gronde. Doucement. Très doucement.
Merci Stéphane Bataillon pour ce moment de poésie. Puis gronder aussi, c'est un petit peu ce qui a traversé hein, toute l'émission aussi. Mais on arrive au terme de l'émission. Juste, Michel Bernard, vous avez, j'imagine, un autre roman qui est déjà en cours. On pourra vous revoir bientôt.
Oui, effectivement, j'ai écrit un nouveau roman, oui.
Vous êtes parti pour une nouvelle histoire. Même chose, Olivier Margot ?
Non, pas encore.
Pas tout de suite.
Non. Voilà. Non, pas encore. Là, je suis dans la continuité de ce livre. Et je suis très fier, non pas de ce que j'ai fait, mais... Qu'un homme comme celui-là puisse renaître. De cette manière, puisse renaître par l'écriture, ce qui est quand même un pur bonheur.
Merci à vous tous. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Le bon sens de Michel Bernard, c'est à la Table Ronde. Et puis Le bon cœur est sorti aussi, alors on peut le retrouver dans la grande collection, mais il est sorti en poche dans la petite Vermillon, parue collection qui est éditée par la Table Ronde. L'homme n'est jamais mort, d'Olivier Margaux, chez Lattès. Et puis Stéphane Bataillon.
Cécile Coulon, c'est Noir Volcan au Castor Astral.
Au Castor Astral, belle petite maison d'édition, Castor Astral. Merci Pierre-Henri Paget. Ah, j'ai plus beaucoup de temps pour la réalisation. Merci Camille pour les lectures. Merci Stéphane Bataillon, vous revenez quand vous voulez. Merci Olivier Margaux. Merci Michel Bernard, au pied de la lettre. C'est fini, on se retrouve la semaine prochaine.